Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé, Sandrine Mercier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Priorité Santé, je suis ravie d'être avec vous. C'est la journée mondiale du refus de la misère et une journée spéciale sur RFI. Et dans l'émission aujourd'hui, où en est-on de l'accès à la santé des plus pauvres? Le dernier rapport de l'Académie de médecine sur la santé des plus précaires explique combien les conditions de vie plus difficiles exposent à des risques sanitaires. Les logements insalubres, la vie à la rue, les violences, les emplois à risque empêchent l'accès à la prévention et aux soins. Ces personnes ont d'autres priorités que de se soigner. Il faut se loger, trouver du travail, se nourrir. Dans ces conditions, il y a urgence. Comment améliorer l'accès aux soins des plus pauvres? Quels sont les dispositifs existants et comment sont-ils utilisés par la population la plus vulnérable? On en parle aujourd'hui avec deux invités. Je commence avec vous, docteur Huguette Boissonnat. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien-dentiste à Nancy et directrice du département santé d'ATD Carmonde. C'est vrai que les dents, c'est franchement un marqueur de pauvreté. On se souvient de la formule malheureuse de François Hollande qui avait appelé les 100 dents. Mais les dents, on touche vraiment quand on a un problème de santé. Les dents, c'est encore le dernier...
Oui, mais vous savez, il n'y a pas si longtemps, on disait que les gens qui avaient traversé les guerres avaient les dents de la guerre. Et on disait, les dents des choses, les dents sont abîmées, ce sont les dents de la guerre. Et on a soigné les populations en fonction de ça. Maintenant, effectivement, on est face à une population qui a les dents de la misère. Les ressorts sont les mêmes. Mauvaise alimentation, mauvais accès aux soins, mauvais accès à la prévention, difficultés de vie, des lieux insalubres. Et les dents de la misère, oui, les dents signent. Des mauvaises conditions de vie.
Et le coût aussi de se faire soigner les dents, ça c'est aussi un vrai problème d'accès parce que ça coûte assez cher. Également avec nous Marielle Chapuis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'Observatoire de l'accès aux droits et à la santé pour Médecins du Monde. Vous êtes aussi donc aux côtés des plus démunis. Ça fait combien de temps que vous êtes engagée dans Médecins du Monde?
Moi personnellement, je suis engagée depuis 2012, donc 5 ans.
5 ans déjà. Et vous allez nous parler d'un rapport que vous sortez, c'est le 17e qui est sorti il y a juste quelques jours, effectivement, vous allez nous dire tout ce que vous avez constaté, tout ce qui ressort de cette étude. Nous ferons dans la deuxième partie, nous irons sur Haïti, puisque ATD Carmonde est aussi présent là-bas avec le docteur Régis de Muidler. On fera un point 7 ans après le tremblement de terre de tous les programmes qui sont mis en place là-bas. Vos messages, on attend vos réactions aussi au 33 1 84 22 75 75. Et sur Facebook.
RFI.
C'est la journée mondiale du refus de la misère, journée spéciale sur RFI. 1 milliard de personnes vivent avec moins de 1 dollar par jour sur notre planète. En France, on va faire les comptes aussi, on annonce 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 3 millions d'enfants, 140 000 personnes qui vivent dans la rue. Alors ces personnes sont-elles oubliées des systèmes de santé? Marielle Chapuis, vous êtes responsable de l'Observatoire de l'accès aux droits et à la santé de Médecins du Monde. Vous venez de publier votre 17e rapport. Alors qu'est-ce qu'il en ressort?
Alors, il en ressort des constats qui sont malheureusement toujours aussi alarmants d'une année sur l'autre. Ce rapport, en effet, sort chaque année pour la Journée mondiale du refus de la misère. Et chaque année, c'est l'occasion pour nous de rappeler, de présenter nos constats de plus de 70 programmes qu'on mène aujourd'hui sur le territoire français. On travaille essentiellement auprès des plus démunis.
Alors c'est vrai que c'est pas facile de prendre soin de sa santé quand on ne sait pas où on va dormir, ce qu'on va manger le soir.
Exactement. Ce qu'on montre en effet, c'est que malheureusement ces populations ont des problèmes de santé importants qui sont essentiellement liés à leurs conditions de vie et à leurs conditions d'accueil en France, et que bien évidemment les questions de prévention passent au second plan quand on ne sait pas où on va dormir ou ce qu'on va manger ou ce qu'on va faire manger à ses enfants. C'est particulièrement difficile d'entrer dans un parcours de prévention et c'est pas la priorité.
Donc vous constatez.
Donc
également qu'il y a de plus en plus de personnes délaissées par notre système de santé.
Oui, ce qu'on constate, c'est qu'on a des personnes qui malheureusement ont des taux de couverture vaccinale trop faibles, ou en tous les cas encore très 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 inférieurs à ce qu'on devrait pouvoir atteindre en France. Les femmes, par exemple, presque un tiers des femmes qu'on rencontre de 25 à 65 ans n'ont jamais réalisé de frottis cervico-vaginal au cours de leur vie. Les personnes connaissent peu leur statut sérologique vis-à-vis du VIH ou des hépatites.
Donc, oui, vous indiquez que seulement un quart savent s'ils sont contaminés.
Donc, c'est des chiffres qui, malheureusement, démontrent qu'il y a des besoins énormes en termes de prévention auprès de ces populations. Mais encore faut-il les aider et leur donner les moyens de pouvoir rentrer dans ces parcours de prévention.
Sans parler aussi des problèmes de dépistage, par exemple pour le cancer, ça carrément, Huguette Boissonna, ça n'existe pas. Très peu.
Alors, ça existe très peu, mais ça existe d'autant moins qu'on n'est pas persuadé d'être soigné une fois qu'on est dépisté. Donc, ça va être la double peine. Vous allez faire votre examen et ensuite, vous allez devoir faire une échographie qui est plus ou moins remboursée, ça dépend des lieux. Puis ensuite, vous allez voir un anesthésiste qui va avoir un dépassement d'honoraires. Et puis ensuite, vous allez être opéré, vous ne pourrez pas payer. Et après, qui gardera vos enfants? Est-ce que vous êtes sûr que les enfants ne seront pas placés pendant que vous êtes opéré et pendant que vous êtes soigné? Donc là, il y a un recul manifeste et éthiquement, le dépistage devrait être suivi d'un parcours possible. Tout à fait possible pour les personnes de se soigner.
Alors, qu'est-ce qui fait, vous êtes engagée à TD Carmont depuis 45 ans,
oui. Hein,
Huguette, cet engagement, il vous tient à cœur, vous le tenez d'où?
Eh ben, cet engagement, j'ai rencontré Joseph Wrzinski, j'avais 17 ans, et j'ai rencontré un homme qui parlait de ce qu'il connaissait, et un homme qui m'a accepté comme j'étais, étudiante en médecine, et qui ne m'a pas dit « tu dois être pauvre pour aller auprès des plus pauvres ». Il m'a dit « tu dois tendre la main, tu dois compagnonner avec les plus pauvres, tu dois rester toi-même et tu dois vivre avec eux ». Et c'est comme ça, c'est de cette rencontre entre quelqu'un qui est ce qu'il est et une personne qui est dans la grande pauvreté, que se tissent des liens, un compagnonnage et une construction ensemble. Et ça ne m'a pas lâchée.
Alors depuis 45 ans, donc vous avez fait un grand chemin aux côtés donc des plus pauvres. Qu'est-ce que vous constatez, vous, au niveau de la santé des plus démunis aujourd'hui?
Alors, on constate des avancées, parce qu'il faut quand même être positif. Et on constate des points de stagnation. Dans les avancées, quand j'ai commencé, les personnes avaient des bons jaunes qu'elles allaient chercher à la mairie. Et elles en avaient une par mois. Exceptionnellement une par semaine, c'est-à-dire qu'on se soignait avec ses bons et on allait là où on voulait bien nous recevoir. Et en accompagnant des personnes, j'ai vu des médecins déchirer ses bons en disant « voilà ce que j'en fais de vos bons ». Passer de ses bons à une carte vitale sur laquelle est marqué quelque part « droit à la CMU », ça veut dire qu'on peut aller se soigner partout.
Avec cette couverture maladie universelle, ça a été un de vos combats aussi, Huguette Boissonna.
Oui, ça a été un combat qui a pris 15 ans. 15 ans de préparation, 15 ans de tests, 15 ans d'accompagnement avec les plus pauvres pour dire « il faudrait ça, il faudrait plutôt ça, non, ça va pas aller ». Et ce sont les militants Carmont, c'est-à-dire des personnes qui vivent la grande pauvreté, qui étaient là et ils sont toujours avec moi.
Donc ils l'ont effectivement testé au départ pour voir comment ça pouvait fonctionner au mieux pour eux. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous remarquez sur l'utilisation de cette...
Alors, malheureusement, 30% des personnes qui devraient l'utiliser ne l'utilisent pas et ne l'ont pas en main. Et ça, c'est très compliqué à entendre, mais c'est aussi pour nous une vraie gageure. C'est-à-dire que 30% des personnes qui devraient pouvoir avoir accès aux soins avec un système de droit commun, ne l'ont pas. Et c'est vraiment un grand souci pour nous de voir comment on peut faire cette passerelle entre le droit et puis l'utilisation du droit pour tous.
Il faut dire que c'est difficile de l'obtenir, Marielle Chapuis.
Alors aujourd'hui, pour obtenir une couverture maladie, oui, c'est particulièrement difficile, surtout quand on n'a pas de papier ou quand on maîtrise pas la langue. Donc là, on parlait de l'accès à la CMU-C, où en effet, ça reste une couverture pour les personnes qui sont en situation régulière en France. Ça reste compliqué d'obtenir la CMU-C pour des raisons de complexité administrative. Pour ce qui concerne l'aide médicale d'État, donc qui est réservée aux personnes en situation irrégulière, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est le parcours du combattant pour arriver à faire valoir ses droits. Malheureusement, donc la complexité est souvent renforcée par des dysfonctionnements administratifs ou des demandes abusives, alors sous prétexte de lutter contre la fraude à l'AME qui n'existe pas, et ça a été démontré dans plusieurs rapports, eh bien les administrations vont demander des papiers, encore des papiers, toujours des papiers, que les personnes ne sont pas en mesure de fournir. Exactement.
Et c'est même difficile de la garder, cette couverture maladie universelle.
Alors pour la garder, il faut rentrer dans une certaine norme, c'est-à-dire qu'il faut refaire des demandes tous les ans, donc faire des papiers. Et alors cette année, il est arrivé quelque chose de vraiment intéressant. Les institutions sont venues rencontrer des personnes pauvres à Nancy, dans le cadre d'un laboratoire d'idées sur la santé. Et elles ont travaillé pendant une journée, des personnes de la CNAM, du Fonds CMU, de la Direction de la Sécurité sociale, elles ont travaillé une journée avec les personnes pour remplir les formulaires et pour voir où étaient les difficultés et ce qu'on pouvait simplifier. Et voilà, un partenariat avec des personnes qui vivent la grande pauvreté, avec les institutions, pour aller vers un nouveau dossier qui va arriver, qui sera peut-être plus simple, ou en tous les cas plus adéquate aux formes de réflexion ou à la forme de vie qu'ont les personnes en précarité.
Alors peut-être ceux qui sont les plus précaires, d'entre les plus précaires, on peut peut-être dire que c'est les migrants. Je ne sais pas si, oui, vous travaillez avec ces populations-là, avec Médecins du Monde. 200 000 migrants en France en ce moment, ce sont les plus touchés. Et alors eux, ils sont vraiment dans une grande souffrance et psychique et physique.
Oui, alors eux, ils sont confrontés à la fois à des conditions de vie particulièrement difficiles et des conditions d'accueil en France qui ne participent pas à améliorer leur état de santé physique ou psychique, en effet. Leurs conditions de vie sont particulièrement difficiles.
Et comment vous abordez la santé de ces populations alors avec un Médecin du Monde?
Alors à Médecin du Monde, on accueille tout le monde dans nos fameux centres d'accueil de soins et d'orientation, les CASO, et c'est souvent la première porte d'entrée pour ces personnes-là pour avoir accès à un médecin. Mais notre objectif premier, c'est de réintégrer ces personnes dans le droit commun, et du coup, on essaie de les accompagner au mieux pour faire valoir leurs droits et pour en particulier obtenir l'aide médicale d'État.
Alors Huguette Boissonnat, vous êtes directrice du département santé d'ATD Quart-Monde. Pourquoi c'est si compliqué l'accès aux soins quand on est pauvre?
Je pense qu'il est compliqué des deux côtés. Il est compliqué de la part du système de santé, parce que je peux vous dire que quand la CMU est arrivée et que les professionnels de santé se sont retrouvés face, dans leur cabinet, seuls à des personnes qui n'avaient pas l'habitude de côtoyer, il y a eu tout un travail qu'on a dû faire sur la relation entre le soignant et le soigné. Et j'ai l'habitude de dire que le médecin est debout, le malade est couché. Et il faut qu'à un moment ou à un autre, ces deux se rencontrent pour que le soin puisse prendre effet. Et donc, on travaille beaucoup sur des co-formations en santé, c'est-à-dire que les personnes très pauvres sont formateurs dans les éléments indispensables à mettre en place pour que la relation se fasse. Et dans les universités et dans la formation primaire, maintenant, on arrive à des situations où les patients vont être des patients instructeurs. Et ça, c'est formidable quand même. En 40 ans, quel progrès.
C'est vrai qu'il y a aussi un gouffre culturel entre deux mondes. Enfin, et même pour les plus pauvres, c'est pas facile d'aller frapper à la porte d'un médecin. Il va être questionné. On va encore le questionner souvent sur les mêmes choses. Il y a beaucoup de pudeur aussi. C'est pas facile de s'exposer.
C'est évident, et il y a une vraie barrière culturelle, mais également linguistique, et c'est pour ça que Médecins du Monde, en particulier, milite pour qu'il y ait un renforcement et de l'interprétariat professionnel dans toutes les institutions médico-sociales, et mais également que le métier de médiateur sanitaire soit reconnu, et qu'il y ait de plus en plus de médiateurs sanitaires, parce que c'est eux qui vont pouvoir faire ce relais entre les usagers et les professionnels.
Sans compter tous les professionnels qui refusaient aussi d'accueillir les détenteurs de la carte de la CMU.
Alors, c'est un phénomène qui est inacceptable, mais qui est malheureusement existant de tout temps. Quand la personne déchirait son bon jaune en disant « moi je ne veux pas votre bon parce que je ne serai jamais payé », on le voyait dans les années 70. Maintenant, on voit des refus de soins et plus ou moins masqués, plus ou moins déguisés, et qui sont différents suivant les régions de la France et suivant suivant
le paysage de santé. On peut pas dire globalement que tout le monde refuse les soins des gens CMU, ce serait pas juste et ce serait faire un faux procès à la profession médicale.
Et si je puis me permettre, on voit également des refus de soins pour les bénéficiaires de l'AME, et ça aussi c'est complètement intolérable, et c'est pour cette raison aussi que Médecins du Monde milite pour simplifier l'accès aux droits et qu'il n'y ait plus d'AME mais une assurance maladie identique pour tout le monde, comme ça on n'aurait plus cette spécificité, ce double régime pour les étrangers en situation irrégulière.
Et alors en termes de santé, ces populations sont plus touchées par quel type d'affection, Huguette Boissonnat?
Alors, je dirais qu'elles sont touchées par les mêmes affections que tout le monde, mais elles en ont beaucoup plus. Quand on a fait des études, notamment dans les centres de médecine préventive, on s'est rendu compte que dans des familles qui vivaient dans la misère, on allait jusqu'à 8 maladies chroniques par personne. Ce qui veut dire qu'on empile les maladies.
Il y a aussi la tuberculose, par exemple, qui est un signe donc, de paupérisation des populations. Quand on voit réapparaître la tuberculose dans certains quartiers...
Oui, malheureusement, on voit les maladies de la misère réapparaître, comme la gale, la tuberculose, essentiellement, souvent, sur les lieux de vie des migrants ou dans les bidonvilles. Donc, c'est encore là tout l'enjeu de pouvoir avoir accès à la prévention pour ces populations-là. Mmh.
Parce que d'une manière générale, on peut dire que ces populations vivent moins longtemps, l'espérance de vie.
Alors l'espérance de vie, oui, effectivement, on est 54, 55 ans, hein, c'est vraiment très peu. Et une espérance de vie en bonne santé, elle est extrêmement réduite par rapport à la population normale. Mais il faut quand même se dire qu'un enfant sur cinq en France est pauvre. Ce qui veut dire qu'on a un enfant sur cinq qui deviendra un adulte et qui sera un adulte qui aura eu ces maladies et cet empilement de maladies enfant. Donc il est urgent de prendre en compte la santé des plus petits.
Et est-ce que dans cet empilement de maladies, vous tenez compte aussi de la dépression? Parce que j'ai lu qu'il y avait des risques beaucoup plus élevés aussi, on oublie ça.
Tout le monde. Je défie quiconque d'aller vivre dans des conditions de misère et de pas faire une déprime. Les conditions sont lourdes, sont difficiles. Et c'est vrai qu'il faut se battre constamment. Et comme disent les militants Quart-Monde, et là, t'as mal dans ta tête. Ton bébé, il naît dans ton ventre, il a déjà mal dans ta tête parce que toi, tu sais que tu n'arriveras pas à le nourrir, tu sais qu'il va aller à l'école, tu sais qu'il sera pas comme les autres parce qu'il aura été dans un monde difficile dès son enfance, il aura des psychologues, il aura ci, il aura ça, et toi, tu souffres parce que tu sais que tu vas mettre cet enfant dans un monde de misère et tu vas d'autant plus te battre.
Est-ce que la difficulté, avant d'écouter le flash, hein, la difficulté sur cette santé des plus pauvres, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment une priorité, ni pour les pays du Nord, ni pour les pays du Sud?
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on est capable d'arrêter une guerre pour faire intervenir les systèmes de santé, pour soigner les blessés, puis de reprendre la guerre après. Donc la défense de la santé et des corps, c'est quand même quelque chose qui est très important dans nos sociétés évoluées. Et l'accès à la protection de la santé pour tous, c'est tout de même un droit de la Déclaration des droits de l'homme. Et ça fait partie, et c'est pas le droit à la santé, personne n'a le droit à la santé. Mais tout le monde a le droit à la protection de la santé. On voit bien que protection de la santé, c'est pas que accès aux soins, mais c'est des conditions de vie qui permettent de protéger sa santé. C'est aussi un accès à la prévention, mais c'est aussi un accès à l'alimentation.
Et est-ce que le but d'une politique de santé aujourd'hui, ce serait quand même d'éviter justement que ces plus pauvres basculent dans l'exclusion irrémédiable, hein?
Ben oui, ça semble évident. Et aujourd'hui, il existe des dispositifs. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il existe plein de dispositifs en France pour prendre en charge les personnes les plus précaires. Mais il faut absolument les renforcer, leur donner des moyens, les pérenniser pour que les plus précaires puissent bénéficier de ces structures-là. Aujourd'hui, elles sont saturées ou bien elles dysfonctionnent pour plein de raisons.
Alors on va continuer dans 3 minutes, hein, quel dispositif justement pour permettre l'accès aux soins des plus pauvres, avec nos invités Marielle Chapuis, responsable de l'Observatoire de l'accès aux droits et à la santé de Médecins du Monde, et vous, docteur Huguette Boissonnat, chirurgien dentiste à Nancy et directrice du département santé d'ATD Quart-Monde. On ira dans la deuxième partie faire un point sur les programmes d'ATD justement en Haïti. Restez à l'écoute, on revient dans 3 minutes après le flash.
RFI. Priorité santé, Sandrine Mercier.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans Priorité Santé, priorité aux plus démunis aujourd'hui avec la journée mondiale de refus de la misère et journée spéciale sur RFI. Combien y a-t-il de pauvres? On parle d'un milliard de gens qui vivent avec moins d'un dollar par jour, oui d'un milliard par jour, on est plus nombreux que ça. Des chiffres qui font froid dans le dos. La santé, on peut le dire, c'est le premier poste sur lequel les gens rognent quand ils sont en difficulté financière. Alors comment améliorer l'accès aux soins? Quel dispositif pour la santé des précaires et quels résultats dans les pays qui priorisent la santé. On en parle aujourd'hui avec Marielle Chapuis, responsable de l'Observatoire de l'accès au droit et à la santé de Médecins du Monde, et docteur Huguette Boissonnat, chirurgien dentiste à Nancy et directrice du département santé d'ATD Carmonde. J'ai lu un chiffre aussi, il a quand même 10 ans ce chiffre, hein, 2008, 15% de la population a déjà renoncé à des soins pour des raisons financières. Est-ce que ça augmente en 10 ans, Marielle Dupuis?
Alors, je ne sais pas si ça augmente, mais en tous les cas, c'est les chiffres que nous, on observe également dans les populations qui fréquentent les programmes de Médecins du Monde, puisqu'aujourd'hui, 20% des personnes nous disent avoir renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois. Donc, malheureusement, c'est un chiffre qui est alarmant. Et on peut mettre en parallèle le retard de recours aux soins également, puisque dans nos structures, la moitié des personnes qui fréquentent un médecin généraliste sont en retard de recours aux soins.
C'est difficile quand même d'avouer qu'on a refusé des soins pour son enfant ou pour soi-même, Huguette Boissonnat.
On l'avoue pas vraiment. On fait comme si. Je pense à cette maman qui, à l'école, recevait de la part de l'école des papiers disant il faut que celui-ci voit un orthophoniste, celui-ci un orthodontiste, il faut qu'on soigne les oreilles de celui-ci, il faut que vos enfants voient un médecin pour ça, et elle n'avait pas de mutuelle. Donc elle mettait tout ça dans un tiroir dans la cuisine, dans le buffet, et quand j'ai ouvert le tiroir, elle me l'a montré. Et elle avait beaucoup d'injonctions pour se soigner, ou soigner ses enfants, mais elle ne pouvait pas. Donc elle ne disait rien, elle les mettait dans le tiroir.
Mais alors comment vous agissez, vous, avec ces populations-là? Il faut leur expliquer, bien sûr, que l'accès aux soins, c'est pas un luxe, mais quels moyens on leur donne pour ça?
Ah, vous pouvez toujours expliquer, quand vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe que de dire on va donner un droit et les gens vont se soigner. Il faut agir sur l'ensemble de la vie de la personne. Pas seulement sur l'accès aux soins, mais il faut que la personne puisse relever la tête. Et pour qu'elle puisse relever la tête, il faut qu'elle retrouve sa dignité, son estime de soi. Et puis, ce qu'elle m'expliquait très, très joliment, elle dit, tu sais, la vie, on est sur un trampoline. En fait, le trampoline, il est tendu par la famille, il est tendu par le travail, il est tendu par l'argent, il est tendu par le logement. Vous voyez toutes ces petites accroches? Il est tendu aussi par ton rôle social. Eh bien, quand on est dans la misère, tous ces élastiques sont tombés. Donc, tu rebondis pas. Et pour que la personne puisse rebondir, relever la tête, il faut redonner. Il faut redonner de l'élasticité, il faut donner du rebond à la personne. Il faut qu'elle puisse relever la tête et puis dire « Mais en fait, je ne suis pas si inutile que ça, je ne suis pas si sotte que ça. J'ai aussi, moi, un vrai savoir de ce qu'est la vie dans la misère. Je vais le mettre au service des autres pour qu'on puisse imaginer des solutions pour en sortir. »
Et alors, pour éviter de mettre les prescriptions dans le tiroir, hein, pour les mettre de côté, il est assez aide à la complémentaire santé. Vous l'avez dit, la santé, c'est cher. Et le fait de ne pas avoir de mutuelle aussi, la sécurité sociale en rembourse tellement peu que ce n'est pas engageant. Hein. Vous en êtes tous sur ce terrain-là?
Alors, sur ce terrain-là, c'est vrai que quand on avait fait la CMU, était distribuée à toutes les personnes qui étaient dans la dynamique du RMI. Quel que soit leur revenu, hein, puisque ça fluctue un peu. Quand on a mis en place le RSA, les personnes qui ont le RSA activité peuvent avoir la CMU, mais dès qu'elles dépassent un seuil par leur activité, elles n'ont plus la CMUC, la complémentaire. Et donc, elles se sont retrouvées sans complémentaire santé, et là, avec des situations de non-accès aux soins, ne pouvant pas payer une complémentaire santé. Et quand on a retravaillé avec les personnes qui avaient travaillé en amont de la CMU, je leur ai dit qu'est-ce qu'on peut faire comme mutuelle? On va en faire une ensemble. On va se mettre ensemble, puis on va faire une mutuelle. Et ils m'ont dit, écoute, il y a deux choses. Il faut que l'hôpital ne nous endette pas, et il faut qu'on puisse enterrer nos morts. Mais je dis, l'hôpital ne peut pas vous endetter, l'hôpital public. Eh bien si, elle dit, quand on n'arrive pas à payer, c'est le trésor public qui va chercher l'argent. Et le trésor public est habilité à prendre les revenus de la pauvreté, les allocations, et laisse une toute petite part pour la famille pour vivre. Et donc l'hôpital public, pour elle, c'était une terreur, parce que ça voulait dire un appauvrissement si jamais l'enfant était emmené à l'hôpital. Et puis la mort, eh bien parce que les prix ont été libérés, les prix des pompes funèbres sont de plus en plus chers, les personnes ont de moins en moins d'argent, il y a un gap très important entre ce qu'il faudrait et ce qu'on a pour enterrer, et maintenant on est dans une situation qui va en s'aggravant et on ne peut plus enterrer les personnes qui sont très pauvres. Donc on a travaillé ensemble en disant, eh bien écoutez, on va imaginer qu'on ait un comité d'entreprise. L'État a dit qu'il allait donner un chèque pour qu'on puisse prendre une mutuelle. Eh bien, on va faire comme un comité d'entreprise. On va prendre ce chèque, on va dire que c'est la partie que donne l'employeur. Et puis, on va aller voir les mutuelles en disant, eh bien maintenant, on va négocier un contrat collectif pour nous, avec ce qu'il nous faudrait. Et on a fait ça en 2009. Puis en 2011, on a une autre mutuelle qui nous a rejoint. Donc, on avait deux contrats. Et puis ensuite, ça a été retenu dans la... les pouvoirs publics, et ça a été la base des contrats qu'on a actuellement, qui s'appellent des contrats de l'aide à la complémentaire santé, qui peuvent être accessibles à toutes les personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 968 euros. Donc on rejoint les personnes qui sont vulnérables par l'âge, les personnes qui sont vulnérables par le handicap, les enfants... et les personnes qui sont en précarité. Et ce travail a permis, vous voyez, à partir des plus pauvres, d'aller vers les autres personnes qui sont un peu plus riches, mais qui sont aussi vulnérables.
Alors on va partir tout de suite en Haïti, puisque ça fait aussi plus de 20 ans que l'association ATD Quart-Monde travaille dans ce pays. Elle est présente dans l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale, Port-au-Prince. Et l'équipe mène différents projets selon les besoins et les tranches d'âge des habitants. Il y a le programme Bébé Bienvenue qui accompagne donc chaque année plus de 160 enfants qui sont âgés entre 0 et 3 ans pour aider à leur développement et lutter aussi contre la malnutrition. C'est un reportage d'Amélie Baron.
Femmes et enfants se serrent sur les tapis de la salle du centre d'ATD Quart-Monde dans le quartier de Martissan.
C'est vraiment une école pour les parents parce que certains ne connaissent rien à la santé communautaire.
Marine Erta Joseph est l'une des animatrices du programme Bébé Bienvenue.
Des fois, on rencontre de jeunes mères, vraiment des enfants qui sont encore à l'école. Mais les choses ont fait qu'elles sont tombées enceintes. Elles n'ont pas eu le temps d'apprendre vraiment grand-chose concernant l'hygiène ou sur les façons de protéger leur environnement, protéger leur enfant. Ici, on aborde beaucoup de sujets sur la santé. Et c'est très important parce que les parents apprennent. Ils apprennent tellement qu'ensuite ils transmettent ce qu'ils savent à leurs voisins.
Dans la salle, les animatrices veillent à ne laisser personne de côté. Louisa Mène à Liona Joseph travaille pour ATD depuis déjà 17 ans.
On voit les organes. Tout le monde voit les oreilles des enfants, les yeux. Mais on ne sait pas s'ils entendent et voient bien.
Au programme aujourd'hui, une sensibilisation sur les cinq sens.
Coucou bébé.
Un bébé qui vient de naître ne peut pas dire « Maman, je ne le vois pas ». Avec les enfants de 2 à 3 mois, on fait passer des pompons devant leurs yeux. Le bébé le regarde et ses paupières bougent. Alors on constate si l'enfant peut voir. On veille aussi à l'audition. On a eu le cas d'un bébé de 5 mois qui ne réagissait pas au son des maracas. On ne joue pas le rôle du docteur, mais on peut détecter un problème. Après diagnostic du spécialiste, grâce au traitement, ça a été mieux pour lui. C'est pourquoi les exercices sur les sens sont très importants pour l'avenir de l'enfant, pour détecter s'il n'a pas de déficience.
À l'heure du goûter, Laura veille à ce que son fils d'un an et demi ne renverse pas son lait. La femme de 39 ans apprécie vraiment ses ateliers offerts par ATD.
Je me sens vivre ici parce que je me sens à la maison, entourée de ma famille. En prévention santé, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on voit dans les activités qu'on ne connaissait pas. Avec ça, ils nous aident vraiment à ce que nos enfants soient moins souvent malades. Par exemple, pour bien nourrir un enfant, je pensais qu'il fallait beaucoup d'argent. Mais en fait, on n'a pas besoin de beaucoup pour donner une nourriture équilibrée.
Une leçon qui revient souvent dans le programme Bébé Bienvenue, la préparation de sérum oral, un indispensable, comme l'explique l'animatrice Marine Herta-Joseph.
L'enfant peut manger un aliment qu'il ne digère pas bien. Quand il fait ses dents, il peut avoir aussi la diarrhée. Quand il a de la fièvre ou qu'il vomit, il élimine de l'eau. L'enfant peut se déshydrater et peut même mourir. Alors, on apprend aux parents à préparer du sérum oral qui permet de tenir avant d'arriver à l'hôpital.
Apprendre pour améliorer les conditions de vie, c'est le but des ateliers d'Athée d'Écart Monde. Mais surtout, pour que cela soit efficace, l'idée est de ne pas faire la leçon. Louise Amène à Liona Joseph le confirme, la technique c'est de rester ouvert.
On laisse les parents parler. S'ils disent une chose fausse, on ne dit pas « ce n'est pas bon ». Par exemple, pour rendre potable un gallon d'eau, une personne peut dire qu'il faut 2 ou 3 cuillères de Javel. Après, nous, on donne la bonne réponse. Mais on ne dit jamais « ce que tu as dit n'était pas bon ». On ne coupe pas la parole, parce que si on interrompt une personne qui s'exprime, après elle aura peur de parler. Des parents nous disent qu'avant, ils étaient très fermés et n'étaient jamais à l'aise pour parler avec d'autres. Ensemble, ici, on parle de sujets comme l'estime de soi ou encore pour la Journée internationale de la femme, on leur parle de leurs droits. L'activité donne aux parents un espace où ils peuvent s'exprimer. On stimule les parents et les enfants, c'est ce qui ressort des témoignages des parents.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Docteur Régis de Mulder, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin et responsable d'Athée d'Écart Monde en Haïti. Alors, vous êtes sur le terrain, vous. On en est où d'abord, premier état des lieux, 7 ans après le terrible tremblement de terre de janvier 2010?
Alors là, évidemment, donc, ça va faire 8 ans en janvier. Malgré tout, il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué. Il y a un effort de reconstruction qui s'est produit dans le pays, même s'il a été très très lent et qu'il y a encore des zones où on voit les traces du tremblement de terre. Si on parle de la santé, l'hôpital général avait été complètement détruit et il y a maintenant un projet de reconstruction qui n'est toujours pas terminé, mais donc les bâtiments sont en train de sortir de terre. Donc c'est un processus qui est très lent, mais dont on voit quand même un certain nombre d'effets aujourd'hui.
Alors depuis 25 ans maintenant, ATD est présent à Port-au-Prince. Vous êtes dans quel quartier exactement?
Donc on se trouve dans un quartier périphérique de la ville, à la sortie de la ville vers Carrefour, le quartier qu'on appelle Haut Martissan. Donc c'est autour d'un quartier qui s'appelle Grand Ravine et qui se trouve, donc c'est un bidonville on peut dire, qui est construit sur les collines à la sortie vers Carrefour.
Alors, vous intervenez surtout dans la petite enfance, hein, c'est ça? Pourquoi? Racontez-nous.
Alors, on intervient au niveau de la petite enfance, l'éducation et la santé. Pourquoi cet accent sur la petite enfance? Parce qu'en fait, les familles très pauvres mettent beaucoup d'espoir et beaucoup de leur énergie pour élever leurs enfants. Mais en même temps, ils rencontrent énormément de difficultés à cause de leurs conditions de vie très difficile. Et dans ces conditions, se mobiliser ensemble autour du jeune enfant, c'est une façon de rejoindre les aspirations des familles très pauvres.
Ça, c'est vraiment le souci des parents. Ils veulent absolument que les enfants s'en sortent mieux qu'eux.
C'est leur souci. Ils veulent que leurs enfants s'en sortent mieux et puis surtout qu'ils puissent avoir, dans cette période qui est cruciale des premières années de la vie, d'abord qu'ils franchissent cette étape vivant. Hein, c'est quand même ça la première réalité dans les familles très pauvres, c'est la vie même de l'enfant qui est menacée pendant les premières années. Donc c'est cette première réalité, il faut que l'enfant passe ces années-là et à partir du moment où il les a passées, mais qu'il puisse connaître un avenir meilleur. Donc ça passe par un bon développement de l'enfant et aussi par tout ce qui a trait à l'éducation.
Vous rencontrez beaucoup de problèmes de malnutrition alors dans ces quartiers?
Alors effectivement, donc c'est une des axes. Donc on a un programme autour de la petite enfance qui est tourné vers le développement de l'enfant, mais aussi le suivi nutritionnel. Et donc nous accueillons des enfants qui sont en état de malnutrition. Et il y a une 60aine d'enfants chaque année qui passent par ce programme, dont plus des 2/3 intègrent ce programme en état de malnutrition aiguë sévère.
Alors, parlez-nous un peu des programmes justement que vous avez mis en place.
Donc, le premier programme, c'est celui-là, c'est un programme pour les enfants de 0 à 3 ans avec leur mère, et donc qui aborde différents points, le développement de l'enfant, avec les aspects nutritionnels, donc tout ce qui est la stimulation précoce. Il y a une présence d'un parent qui est requise pour qu'il participe à cette dynamique. En même temps, il y a toute une dimension de promotion de la santé familiale. On aborde ensemble avec les parents toutes les questions qui sont liées à la santé de l'enfant, la santé du jeune enfant, mais aussi la santé de la famille, des questions comme le planning familial entre là-dedans.
Autour de l'accès aux soins, qu'est-ce qui est le plus notable en ce moment? Qu'est-ce qui apparaît et sur quoi vous intervenez surtout?
Au niveau de l'accès aux soins, on a mis en place un système, on peut dire une sorte de petite assurance santé qui permet donc à des familles d'avoir accès à un réseau qui assure les soins essentiels. Donc pour les soins de santé primaire, c'est basé sur un centre de santé communautaire qui est géré par une ONG haïtienne, le Service économique d'entraide, et donc qui est notre partenaire de très longue date à ce niveau-là. Après ça, pour les soins de seconde ligne, on travaille avec les structures publiques ou assimilées publiques et quelques structures privées avec lesquelles on a un contrat de partenariat. Et donc, cet ensemble est supposé, destiné à garantir l'accès aux soins essentiels à une population, donc qui est la population de ce bidonville dont je parlais.
Et qu'est-ce que vous voyez donc revenir comme maladie, docteur Régis de Mugler?
Écoutez, les maladies sont les maladies qu'on rencontre le plus fréquemment. Il y a tous les problèmes qui sont liés chez l'enfant. D'abord, les problèmes nutritionnels, on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi les questions, les maladies diarrhéiques, les parasites intestinaux qui sont très fréquents, les infections respiratoires qui restent des causes. Chez l'enfant, en tout cas, les interventions les plus fréquentes. Et puis, il y a aussi une attention particulière à des maladies comme le VIH-Sida et la tuberculose, donc qui sont prises en charge par ce réseau. Et aussi chez l'adulte, des maladies non transmissibles comme le diabète et l'hypertension qui commencent à prendre une place très, très importante.
Et pour terminer, alors, qu'est-ce que vous observez après ces programmes?
Ben, ce programme, en fait, on l'a évalué plusieurs fois. Il donne un certain nombre de résultats. D'abord, c'est qu'on touche effectivement des familles très pauvres, parce que quand on parle de la population d'un bidonville, la population est pauvre en général, mais il y a des familles qui sont vraiment plus vulnérables et plus enfoncées dans des conditions de misère. Donc, on constate qu'on parvient à toucher ces familles-là, donc c'est un point positif. D'autre part, au niveau des dépenses catastrophiques de santé, ce qu'on appelle les dépenses catastrophiques de santé, c'est-à-dire pour lesquelles les familles, des dépenses sur lesquelles des familles doivent s'endetter. En fait, ce système permet d'éviter ça. Ça, on l'a montré. Et d'autre part, quand on compare le taux d'anémie ou la couverture vaccinale et qu'on compare ça aux études qui sont faites au niveau national, on voit qu'on a des résultats significativement meilleurs. Ce qui garantit la participation des familles les plus pauvres, c'est que le programme au niveau de la couverture de soins et de l'accès aux soins est intégré dans une dynamique communautaire et que ça fait beaucoup pour la participation des plus pauvres dans ce projet.
La dynamique communautaire, donc, à mettre en avant grâce à ce programme d'ATD Carmonde en Haïti. Merci beaucoup, hein, Régis de Mugler, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin et responsable d'ATD Carmonde à Haïti.
Merci beaucoup.
Priorité santé sur RFI.
Être pauvre aujourd'hui, quelles répercussions sur sa santé? Que faire pour améliorer la santé des plus précaires? Nous sommes avec le docteur Huguette Boissonnat, chirurgien dentiste à Nancy et directrice du département santé d'ATD Carmonde, et Marielle Chapuis, responsable de l'Observatoire de l'accès aux droits et à la santé de Médecins du Monde. Alors, comment toucher toutes les populations qui n'ont pas accès aux soins à Médecins du Monde? Vous militez pourquoi en ce moment?
Alors, nous, on milite très fortement, mais depuis de nombreuses années, pour une simplification simplification de l'accès aux droits et aux soins pour tous. Et pour nous, cette simplification, elle passe entre autres par l'intégration de l'aide médicale d'État dans le régime général de la sécurité sociale.
Donc qui est destiné aujourd'hui aux étrangers.
Exactement.
C'est ça.
L'idée étant de ne plus avoir deux dispositifs, un pour les étrangers en situation irrégulière et un pour les autres. C'est pour nous une réforme qui est incontournable et c'est une mesure de santé publique majeure et qui permettra également des économies au niveau, parce qu'il y aura des économies en termes de coûts de gestion, mais également pour la sécurité sociale, puisqu'on pourra prendre, avec cette simplification, on pourra prendre en charge les personnes bien plus en amont, avant que leurs problèmes de santé s'aggravent ou deviennent particulièrement complexes. Donc c'est une réforme qui, pour nous, est incontournable.
Et qui va aussi dans ce sens, vous militez aussi pour renforcer les structures de proximité et aussi toutes les actions mobiles de santé, pour aller vraiment sur le terrain, là où les gens sont.
Oui, alors Médecins du Monde a une particularité, c'est qu'on essaye d'aller là où les médecins, où les personnes sont, parce que beaucoup d'entre elles ne veulent plus, pour plein de raisons, ou ne peuvent plus se rendre chez un médecin. Et donc Médecins du Monde, en effet, a une soixantaine de programmes dits mobiles, où on va à l'encontre des personnes. Mais notre objectif, en effet, c'est de les rendre autonomes et de faire en sorte qu'ils aillent d'eux-mêmes ensuite vers les dispositifs qui existent. Et il faut en effet multiplier ces dispositifs de proximité que sont les PMI, les protections maternelles infantiles, ou les plannings familiaux, ou les centres de santé qui doivent accueillir les personnes au mieux.
Alors, où est-ce qu'on en est de l'assurance maladie universelle, Huguette Boissonnard ? Est-ce que l'idée suit son cours ? Vous pouvez nous faire un petit récapitulatif ?
Alors, je dois dire que c'est un peu un serpent de mer, mais c'est vraiment une idée qui est passionnante. L'idée, c'est que, au lieu d'avoir des intervenants qui sont des fondations qui vont venir pour les uns faire des vaccinations en Afrique, pour les autres lutter contre le sida en Inde, pour les autres lutter contre ci, contre ça, eh bien que les fondations, les institutions, qui elles aussi ont cette même démarche, mais qui vont le faire elles-mêmes de leur côté, les États, qui eux aussi ont le souci de la santé des leurs, eh bien que ces trois grands se mettent ensemble, mettent leur argent ensemble et fassent un programme qui soit un programme d'accès à la santé primaire de tout un chacun dans le monde. Vous imaginez combien c'est ambitieux.
C'est très très ambitieux, oui.
Néanmoins.
Se mettre autour de la table.
Voilà,
oui.
Si on regarde les sommes dépensées pour des programmes qui s'empilent et qui quelquefois font des millefeuilles, eh bien, je crois qu'il y a urgence à réfléchir les choses ensemble et avec les populations elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'idée de l'avenir. Ça va venir. Alors, les gouvernements, eux, sont attentifs, bien sûr. Les institutions ne sont pas contre. Les fondations sont pour. Après, effectivement, on peut avoir plusieurs instruments avant d'avoir une belle musique. Quelquefois, il faut des années.
Alors, cette belle musique aussi, c'est l'objectif de zéro pauvreté pour 2030. C'est l'objectif de développement pour le millénaire. C'est une utopie de vouloir éradiquer la misère. Marielle Chapuis,
je ne sais pas si c'est une utopie, mais en tous les cas, il faut que ce soit une de nos priorités. Et c'est évident et il faut en effet que les plus précaires soient pris en compte et que les pouvoirs publics prennent conscience des constats que peuvent faire toutes les associations.
Qui militent sur le terrain, oui, Huguette Boissonnard.
Oui, vous savez, moi je prends souvent, enfin à TT Carmonde, on prend souvent l'exemple d'une pile d'assiettes. Si vous voulez faire en sorte qu'une pile d'assiettes ne tombe pas de la table et se casse, il faut prendre l'assiette du dessous et déplacer cette pile pour la poser dans un endroit stable. Et toutes les politiques de santé et les politiques de lutte contre la pauvreté nous enseignent que quand on prend en compte les plus pauvres et les plus fragiles et les plus vulnérables d'une société, nos décisions vont être des décisions qui vont profiter à l'ensemble de la population et qui vont stabiliser l'ensemble de la population. Je pense à la CMU-C. Quand on l'a faite, dans ma profession, je me suis entendue de « oui, on va soigner tous ces pauvres gratuitement, pour rien ». Et 20 ans après, je vois mes collègues qui ont des enfants, qui ont fait des études, des grandes études et qui ne trouvent pas de travail et qui sont à la CMU. Eh bien, voilà, un petit sourire.
Alors, un message fort pour terminer l'émission que vous avez envie de faire passer, vous, à la fin de cette émission, en cette journée mondiale de refus de la misère pour Médecins du Monde, Marielle Chapuis.
Alors, moi, le message fort qu'on souhaiterait passer, c'est que ça serait bien que les pouvoirs publics entendent nos constats et que si aujourd'hui ils défendent, enfin, ils veulent faire de la prévention et de la réduction des inégalités une priorité, alors il faut absolument que la réforme de l'intégration de l'AME dans le régime général soit une de leurs priorités.
Donc vous le dites haut et fort ce matin et vous le martelez effectivement depuis quelques années. Et pour vous, pour terminer, docteur Huguette Boissonnat.
Alors moi je vais être un peu moins gaie. Je voudrais vraiment que notre société française reprenne en compte les plus pauvres, mais dans la mort aussi. Parce que la dignité, elle s'arrête où pour toutes ces populations? Et je peux vous dire que hier, j'ai encore eu un coup de téléphone et il y a encore une personne qui est très pauvre, qui est décédée. On ne sait pas où elle est dans un frigo, on n'a pas l'argent pour l'enterrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le mouvement ATD Quart Monde a mis en place, de la même façon qu'on a travaillé la mutualisation, eh bien un produit d'assurance obsèques pour les plus pauvres, qui coûte pas cher, il coûte 1 euro par mois ou 2 euros. Le plus cher, c'est 13 euros par mois.
Et l'idée, mais c'est de cotiser aussi tout au long de sa vie.
Voilà, c'est une petite cotisation. Mmh. On est allé voir les pompes funèbres, on a négocié un contrat avec des gens pauvres qui soit un contrat digne, vraiment digne, et qui soit simple. Et voilà, on voudrait vraiment que ça soit... Bon, c'est de l'éthique, hein.
Merci beaucoup, docteur Huguette Boissonnat, donc chirurgien dentiste à Nancy et directrice du département santé d'ATD Quart Monde. Merci également à vous, Marielle Chapuis, de Médecins du Monde. Merci pour ce rapport que vous avez fabriqué encore pour la 17e année au sein de l'Observatoire pour le droit et la santé. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. Merci à tous nos amis auditeurs. Demain, c'est Caroline Paré qui est de retour avec un sujet sur la ménopause. À vos téléphones, les femmes. Au 33 1 84 22 75 75. Très bonne journée.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.